Si vous voulez vous tourner dans l'évangile de Jean, au verset 5, avec moi. Jean 5, lisons ensemble à partir du verset 1. On va regarder le texte qu'on va regarder ce matin. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. » Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Prions. Dieu, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et notre compréhension pour comprendre ta parole ce matin. Nous avons besoin que ce soit toi qui nous parle par ta parole, qui nous exhorte et qui nous reprennent, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi seul as les paroles de la vie. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit juste une étude, une lecture, quelque chose de stérile, Seigneur, mais nous voulons que par ton esprit, tu viennes parler à chacun d'entre nous. Merci pour ce texte, merci pour cette histoire, merci pour cette étude de l'évangile de Jean. Parle s'il te plaît, Seigneur. Entendons nous prions. Amen. Alors, est-ce que vous avez apprécié jusqu'ici notre étude dans l'évangile de Jean ? Moi et Pierre, comme nous avons à le préparer, peut-être nous sommes dans une situation peut-être un petit peu différente, mais en tout cas, moi je m'en régale. Chaque fois que j'ai à me plonger dans l'évangile de Jean, je commence à lire des commentaires, à écouter d'autres enseignants, et il y a des idées, des choses passionnantes et des choses que j'ai envie d'approfondir et des choses merveilleuses. On apprend tellement de choses sur Jésus. Et je voulais vous communiquer mon excitation ce matin parce qu'encore une fois, je pense que ce matin, on a un texte génial avec plein de choses qu'on peut creuser ensemble. J'espère brièvement, pour ne pas faire trop long. Hein. Mais je vous encourage aussi, à part vous-même, à lire l'évangile de Jean. Vous savez qu'on va être dans l'évangile de Jean encore quelques temps, comme c'est la tradition de notre Église, la manière dont nous étudions la Bible de manière systématique. Prenez le temps, lisez les prochains textes, regardez, posez-vous des questions, et le dimanche matin, vous allez peut-être avoir les réponses ou avoir le tiens, j'avais même pas pensé à ça, ou tiens, ça m'était même pas venu à l'idée, ou ah oui, ça j'avais vu. Ça vous donne aussi un peu plus de relief à l'étude plutôt que pour vous d'être passif et vous dire tiens, Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Je ne sais plus. Jusqu'ici, dans l'évangile de Jean, surtout quand on regarde les commentateurs, souvent les gens qui étudient la Bible découpent un peu les livres en structure pour aider avec la compréhension et pour nous aider à appréhender les livres. Et on dit que jusqu'ici, souvent les quatre premiers chapitres, on a vraiment une présentation de Jésus, de qui il est, du fait qu'il est Dieu, qu'il a ses signes miraculeux, qu'il a cette puissance. Il y a quelque chose d'incroyable avec ce Jésus qui nous est présenté dans les quatre premiers chapitres. Et ici, on arrive au chapitre 5. Et moi, dans ma Bible, par exemple, il y a une petite en-tête en bonus qui dit « Opposition à Jésus ». Et il y a marqué 5:1 jusqu'à 12:50. Et l'idée, c'est que quand on étudie la Bible pour nous aider avec notre appréhension, pour nous aider à comprendre et à saisir le livre, on nous le découpe un petit peu et ça nous aide à avoir des thèmes et des idées qui nous permettent de nous rappeler un petit peu la structure du livre. Et donc, on arrive dans une partie de cet évangile qui est l'idée que Jésus va rencontrer beaucoup d'opposition. Et c'est quelque chose d'assez surprenant quand on se dit, ok, on a les quatre premiers chapitres, Dieu fait homme, qui fait des miracles merveilleux, et tout le monde va être contre lui, en quelque sorte, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont être opposés à lui. Et aujourd'hui, on va voir une première opposition, une première étape, des gens qui vont lui en vouloir, jusqu'à vouloir le tuer. Et c'est vraiment surprenant et incroyable. Notre texte ce matin, dans ce contexte, l'idée de l'opposition, on va voir que suite à un miracle où il guérit un homme, les chefs religieux des Juifs vont être fâchés contre Jésus et on va regarder pourquoi. Mais je voulais nous mettre un petit peu dans le contexte de ce miracle. Et vous peindre un petit peu en idée, en tout cas, l'image de la situation. Et c'est parfait parce que on a eu une soirée jeudi soir au Café Colombe, et c'était une soirée où il y avait des défis entre deux personnes, et il y avait des petits concours, et les équipes devaient parier sur quelle personne allait gagner, et puis il y avait des défis entre ces deux personnes. Et assez rapidement, sur certaines épreuves, c'est tombé dans l'hystérie. Alors qu'on jouait pour des cacahuètes, hein. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Moi, notamment, j'ai cassé un balai en à peu près 3 dixièmes de seconde. Je crois qu'il avait été saboté, peut-être. Mais en tout cas, j'ai perdu mon défi. Je me suis fait balayer comme... Et avec ce genre de jeu, on peut arriver rapidement à des situations de folie. J'ai cru un moment qu'on allait casser un des murs. Il y a eu les filles ont été plus mesurées, évidemment, mais certains des garçons ont cassé des balais, presque cassé des murs, voilà. Et je voulais vous dire, imaginez ce matin que je vous dise, le premier qui touche la colombe ici a 1 million d'euros. Go! Est-ce que ça va être, vous allez être là, oui, non, je vais essayer d'aller toucher, non? Ça va être la folie. Et bien, il n'y a même pas besoin d'un million d'euros si je vous disais 5000 euros. Je pense que déjà, vous allez, il risque d'avoir... Et le dimanche d'après, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de monde dans l'église que ce matin, à votre avis? On aurait quelques invités, quelques badauds qui se diraient peut-être que je vais me placer tout d'un coup les rangs de devant. Ce ne serait pas la même chose. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que on lit un texte et il est question de cette piscine à Jérusalem où de temps en temps l'eau s'agitait. Alors le texte ici, il y a un crochet sur l'explication avec l'ange, donc on n'est pas très sûr. exactement ce qui se passait, mais l'eau s'agitait de temps en temps et le premier qui touchait l'eau était guéri. C'est un peu le même genre de truc. Et nous, on lit ce passage, moi je le lisais en tout cas, et je me dis, oui, j'ai une vision très, je pense, loin de la réalité de cette situation, où je me dis, c'était très, il y avait quelques gars, et puis, oh tiens, il y a l'eau qui s'agite, vas-y, essaie de toucher, voir. Non, c'était le million d'euros quand vous touchez la colombe. Là, on parle d'un homme qui est infirme depuis 38 ans, qui est à côté, et il y en avait plein. Il y avait plein de personnes, on va voir le détail, mais à mon avis, quand l'eau s'agitait, on avait une situation d'hystérie totale. L'homme, plus loin, va dire à Jésus, « J'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Je pense que je le prends, et tac C'était la piscine où il y a un million d'euros au milieu, quoi. Et on vous dit, le premier qui touche l'eau. Il n'y avait pas la vidéo, j'imagine. Est-ce que c'est moi qui ai touché en premier? Ils sautent tous et on ne sait pas qui c'est qui a été guéri. Il y en a peut-être des centaines. Les chiffres, on ne sait pas exactement. On a retrouvé les lieux, donc on a une idée du nombre de gens qui auraient pu être dans ce lieu. Mais on lit ça, oui. Alors il y avait des paralysés qui étaient assis là, et puis une piscine qui s'agitait, et de temps en temps, quelqu'un était guéri. Non, c'était un truc de malade. C'était une émission de télé-réalité où on dit, premier dans l'eau, il gagne un million. Ça devait être la folie. Ça me fait penser de nos jours un petit peu au film de zombies. C'est pas du tout mon truc, mais vous voyez l'image. Il y a des pubs, c'est très présent dans notre culture populaire. C'est un peu là, parce que ici on a plein d'infirmes, de gens malades, et j'imagine que quand l'eau s'agitait, il fallait pas être au mauvais endroit, au milieu de la foule, parce que sinon vous finissiez dans l'eau aussi. Et aussi, je pense que c'était pas une piscine avec des escaliers tranquilles pour rentrer. C'était un truc, à mon avis, un petit peu plus brut de coffrage. Donc, on est là dans ce contexte et on est dans cette situation avec ce genre de comportement et ce genre de choses. Et on peut reprendre donc au verset 1. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc après quoi? C'est après l'épisode avec l'officier qui était mourant, Jésus qui retourne en Galilée, qui est au nord. Il y a une fête, on n'est pas sûr laquelle. Il y avait plusieurs fêtes qui pour lesquelles normalement les hommes juifs se déplaçaient à Jérusalem. La Pâque est une possibilité, il y en a d'autres. Donc Jésus revient à Jérusalem et il y a cette piscine. Et c'est une piscine qu'on a trouvée, les archéologues ont trouvé. Et donc cette piscine a 5 portiques. Les archéologues ont trouvé 2 bassins. Donc on ne sait pas le détail des 2 bassins ou ce que ça impliquait. Quand j'ai vu le mot portique, moi je suis pas très bon avec l'imagination, donc il faut que j'aille chercher. À l'école, c'était un problème en cours de français quand il y avait des descriptions. J'ai notamment un souvenir très pointu d'un texte dans Madame Bovary, où ma prof de français m'a parlé longuement de la description et où moi je visualisais strictement rien. Et donc les portiques, ça m'aidait pas vraiment. Mais donc c'est l'idée d'une galerie qui est couverte avec des colonnes et qui était sans doute ouverte sur la piscine et avec un mur sur un côté. J'essaie de vous le décrire. Moi, j'ai regardé des photos, donc je l'ai bien en tête. J'aurais pu en mettre. Mais je n'ai pas pris le temps. Et en tout cas, sous ces portiques, il y a un grand nombre de personnes qui sont couchées. Donc verset 3, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Moi, ça me fait penser, évidemment, à ce genre de description, et l'espoir d'un miracle me fait penser à Lourdes. J'y ai jamais été, mais peut-être si vous avez vu des images ou des vidéos, c'est un peu le genre de choses où il y a plein de personnes qui sont malades, qui ont des problèmes physiques et qui sont là et qui attendent. Le texte nous dit que de temps en temps, un ange descendait et agitait l'eau de la piscine. Le « de temps en temps », suivant les traductions, ils disent que c'était peut-être à un certain moment, mais on ne sait pas trop, c'était un peu... ça reste assez vague. Et donc toutes ces personnes sont là, tous ces malades et ces personnes infirmes, aveugles, boiteux, paralysés, etc. Et ils attendent parce qu'ils espèrent être guéris. Ils espèrent avoir la solution à leurs problèmes. Et en note, quand vous lisez, il y a des passages qui sont entrecrochés. Et dans la Bible, quand il y a des passages entrecrochés, ça veut dire que ce sont des passages qui ne sont pas dans tous les manuscrits que nous avons, les manuscrits anciens, à partir desquels on a établi notre traduction de la Bible. Et quand on nous dit ça, on dit « Ah oui, mais alors, il est question de l'ange qui agitait l'eau, etc., etc., et c'est entrecroché, donc peut-être que ce n'était pas le cas. » Mais on regarde au verset 7, et là, le passage dans le verset 7, lui, est présent dans tous les manuscrits, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quand l'infirme répond à Jésus et explique ce qu'il espère de la piscine. Alors, on lit ces passages et on se dit, mais est-ce que ça se passait vraiment? Est-ce qu'il y avait vraiment ces miracles? Est-ce qu'il y avait vraiment un ange qui était là? Est-ce qu'on le voyait? Il était là avec un bâton? Ou est-ce qu'il avait un... comment il faisait, etc.? Alors, est-ce que c'était vraiment un miracle incroyable? Est-ce que ces gens étaient vraiment guéris? Je peux vous répondre de manière catégorique et sans hésiter que je n'en sais rien. C'était peut-être un placebo, c'était peut-être qu'il y a eu une chose là et qu'après il y avait quelque chose que les gens espéraient, qu'ils étaient là présents, peut-être que Dieu faisait vraiment des miracles par ce biais, on n'en sait rien. La Bible nous parle de miracles et du fait que Dieu fait des miracles et ce n'est pas quelque chose que nous devons éviter, que nous ne devons pas accepter. Et la Bible nous présente bien des miracles qui sont bizarres, qui sont louches, pour dire le moins. Si vous faites le tour, on va pas le faire maintenant, mais si vous vous posez, si vous dites tiens, qu'est-ce qu'il y a comme miracle dans la Bible, il y en a des vraiment bizarres. Et la Bible nous les présente comme étant vrais. Et en tout cas, ces gens, toutes ces personnes qui étaient là, croyaient à ça. Ils étaient là pour ça et ils venaient pour ça. Donc cet homme, il est là depuis 38 ans, ou il est infirme depuis 38 ans. Il n'est peut-être pas présent à la piscine, pardon, depuis 38 ans. Mais il est infirme depuis 38 ans. Moi, j'en ai 36. C'est long, 38 ans. Moi, je me souviens même pas des 5-10 premières années de ma vie, tellement, et déjà le reste, ça m'a l'air très très long. Et lui, il est infirme depuis 38 ans. Et il est allongé, et il peut pas vraiment bouger. On voit dans son interaction avec Jésus, il dit, l'eau s'agite et j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, c'est qu'il pouvait même pas, j'imagine quelqu'un comme ça, il se mettrait... moi, ma tactique, si je me mettais à leur place, un petit peu quand on a les jeux, là, que c'est l'hystérie, etc., on va se placer juste à côté de la piscine, non? Peut-être espérer que, par accident, le gars qui est en train de lui passer dessus le pousse avec le pied et le fasse rouler et tomber dans l'eau. Vraiment, à mon avis, il était vraiment pas très bien. Des fois, on lit infirme, on se dit ça peut être peut-être plusieurs degrés d'handicap, mais là je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment qui pouvait pas bouger. Et Jésus le voit, verset 6, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? C'est un peu bizarre comme question, non? Vous pensez qu'il y avait beaucoup de gens bien portants qui traînaient là autour du bassin? Je me dis qu'il ne devait pas avoir beaucoup, grand monde qui était bien portant. Quel était l'intérêt? À part peut-être se baigner quand l'eau n'était pas agitée. Mais alors, il fallait pas être au milieu de la piscine en train de se baigner quand elle s'agitait, parce que... Puis si on se baignait dedans, est-ce que si on l'agitait, les gens pensaient que ça y est, c'est bon, et tout le monde... Je ne sais pas, mais c'est une question bizarre que Dieu lui dise... Dieu le voit, Jésus le voit, et lui dit, visiblement, tu peux pas bouger, tu es là autour de la piscine où les gens espèrent être guéris... Tu veux être guéri? J'essaie de trouver une idée pour un peu nous aider à le saisir. C'est un petit peu comme si j'allais interpeller quelqu'un dans un supermarché et lui dire tu veux faire des courses? Non, j'aime bien juste me promener à Carrefour. C'est agréable. Je fais des allers-retours. C'est un petit peu ce genre de choses. Alors évidemment c'est Jésus, donc on peut creuser, et c'est pas un manque de respect ou un manque de considération de la part de Jésus. L'homme lui répond simplement en lui expliquant son malheur. Il dit je suis pas assez rapide, j'arrive pas, j'ai personne, comme je vous disais sans doute qu'il pouvait même pas bouger, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit en quelque sorte je veux être guéri, mais j'y arrive pas, je peux pas. C'est peut-être une manière détournée pour dire qu'il a besoin d'aide. Peut-être ah toi tu veux me jeter dans l'eau. Alors peut-être que la question de Jésus est adressée à cet homme, et c'est pas une idée qui vient de moi, mais c'était une idée que j'ai trouvée intéressante de la part de certains commentateurs, pour dire que parfois en tant qu'être humain on se retrouve dans une position où on se complaît dans notre malheur. On se complaît dans notre souffrance. On construit une vie et une identité et des habitudes autour d'un souci, d'un handicap, de quelque chose. Et pour les êtres humains, le changement, c'est dur. Peut-être que la raison pour laquelle Jésus lui demande, c'est lui dit... Cet homme est intéressant parce que on a quelqu'un qui vient là avec l'espoir d'être guéri et qui en même temps a une forme de désespoir. Il dit oui, je suis là, je veux être guéri, et en même temps, je sais que je vais jamais y arriver parce qu'il y en a d'autres qui sont plus rapides que moi. C'est un peu un paradoxe. On se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Alors tu c'est un peu une perte de temps. Surtout si ça faisait 38 ans, visiblement. Il pouvait jouer longtemps au jeu, il n'allait pas gagner, quoi. Et donc c'est un mélange. Et peut-être qu'il se complaisait dans cette identité. Peut-être qu'il avait ses habitudes, ses amis. Peut-être, j'en sais rien. C'est une hypothèse, évidemment. Ça permet un petit peu d'expliquer peut-être pourquoi Jésus pose cette question. Une autre idée, c'est parfois, par rapport à ce genre de choses, on est prêt à changer si ça ne nous coûte rien, ou si on n'a rien à faire, s'il y a le remède miracle. Il y a tout un pan de notre industrie et tout un pan d'Internet qui sont basés sur cette idée-là. Des solutions pseudo-médicales à tous nos problèmes. Vous mangez tel complément alimentaire et vous allez être guéri de tout. Même des os cassés, on ne sait pas comment ça se passe, mais ça fait des... J'aime bien, quand vous lisez des articles, souvent sur les sites de nouvelles, il y a en bas, il y a des pubs avec des titres du genre « Il boit du thé au curcumin tous les matins et le résultat va vous étonner. Vous les connaissez, c'est plus, vous savez de quoi je parle. Vous savez le nombre de livres, d'émissions télé, de choses qui sont basées sur l'idée d'une solution qui ne nous coûte rien. Dans l'amour, dans l'argent, dans la vie, dans tout. On espère avoir quelque chose gratuitement sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Et, Et donc peut-être que c'était un mélange, peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans, et peut-être que c'est pour ça que Jésus lui a posé cette question. Il dit, tu veux vraiment être guéri, peut-être que tu es là, des fois on se dit oui, je veux être guéri, mais peut-être que peut-être qu'en fait tu es bien là, et si ça te coûte quelque chose d'être guéri, peut-être que tu veux pas. Et peut-être que pour certains d'entre nous, c'est le cas aussi, on va regarder un petit peu après, mais peut-être que pour certains d'entre nous, nous voulons être guéris ou libérés de quelque chose. Peut-être que le changement nous fait peur un petit peu et on dit vouloir être guéri ou changé ou libéré et en réalité on se complaît un petit peu dans la situation où nous sommes. On va voir après aussi le fait qu'il regarde à la mauvaise solution, cet homme. Il regarde la piscine, il y a Jésus qui rentre et lui il regarde pas Jésus, il regarde la piscine au cas où ça bouge. On va regarder et réfléchir après, mais peut-être que pour nous, on regarde aux mauvaises choses pour être guéri, pour être libéré, pour être changé. Est-ce que nous regardons à Jésus ? Cet homme est obnubilé par la piscine. Il ne voit que cette solution-là. Il ne voit que ça. Il se dit, si je vais être guéri, ça va être quelqu'un qui va me jeter dans l'eau. Point. Et donc son problème, pour lui, ce qu'il adresse à Jésus, il lui dit, mon problème, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Son principal problème, ce qu'il dit, c'est j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Son problème, c'est quoi ? Son problème, c'est qu'il est infirme. C'est ça, son problème. Et c'est quelque chose que nous faisons aussi. Nous pouvons parfois camoufler la vraie origine des problèmes avec d'autres choses. Peut-être que nous voulons de la sécurité, mais ce que nous allons dire, c'est il me faut plus d'argent, parce qu'avec de l'argent, je peux acheter des meilleures choses, je peux avoir un plus grand appartement, je peux être tranquille, j'ai pas de soucis. Mais peut-être qu'en réalité, ce que nous voulons au plus profond de nous, c'est la sécurité. Ou peut-être que nous voulons des relations, de l'intimité, d'être accepté par quelqu'un. Et on va dire ah il me faut un époux ou une épouse, absolument. Mais le problème, c'est pas je n'ai pas d'époux, je n'ai pas d'épouse. Le problème, ce n'est pas vraiment au fond du problème que je n'ai pas d'argent ou que je n'ai pas suffisamment de choses. Le problème, c'est que j'ai un problème de je me sens pas en sécurité, je me sens seul. Et ce texte, ce qui est formidable, c'est qu'il nous présente Jésus comme la réponse à ces problèmes. Pour cet homme, il avait un problème d'infirmité et la solution pour être guéri, pour être changé, c'était Jésus. C'était pas l'eau. Peut-être que plutôt que d'avoir l'assurance parce que vous avez un gros compte en banque ou un bon salaire, l'assurance dont vous avez vraiment besoin et qui va vraiment vous satisfaire, c'est l'assurance que vous avez en Jésus, que lui va vous garder en sécurité. Qu'il va s'occuper de vous, de vos problèmes, de vos inquiétudes. Peut-être que ce sont des exemples, il y en a plein dans nos vies. Peut-être que le sentiment de solitude ou le fait de ne pas être accepté, celui qui va répondre pleinement et complètement à ce besoin dans votre vie, c'est Jésus. Et ce qui est formidable avec ça, c'est qu'après, les circonstances externes perdent de leur importance. Le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent, si on est satisfait par Jésus, alors c'est plus grave. Évidemment, ça affecte des aspects de notre vie. Le fait d'avoir Jésus et de ne plus nous sentir seuls, alors ça nous permet d'être vraiment épanouis et d'être pleinement satisfait. Nous savons et nous sommes conscients que les choses souvent pour lesquelles nous aspirons, le fait d'avoir un époux ou une épouse, le fait d'avoir plus d'argent, le fait d'avoir plus de sécurité, tous les besoins, toutes les choses auxquelles on peut aspirer comme ça dans le monde, nous savons qu'à la fin, il va rester quand même une insatisfaction, que ça va pas répondre pleinement, que nous mettons nos espoirs dans quelque chose qui est fini et qui n'est pas complet. Et c'est Jésus qui est celui qui peut répondre à nos besoins pleinement. Et donc Jésus lui dit simplement, donc l'homme lui dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus, sa réponse, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Ça aussi, c'est fou. Et là aussi, de réfléchir, de se mettre dans la peau de cet homme-là, il a le combat en lui-même. Il y avait ce mélange d'espoir et de désespoir. Et là, on se dit qu'il y avait sans doute une lutte entre sa foi et sans doute son incrédulité, ou sans doute, il aurait pu dire, mais tu vois, tu n'as pas compris la situation. Jésus, ça fait un moment que j'en rêve la nuit, mais je peux pas me lever, porter mon lit et partir là. C'est pas. Il aurait pu répondre comme ça, mais en lui-même, en réponse à la parole de Jésus, il s'est dit je vais essayer. Et je vais essayer d'accepter d'obéir à cette chose impossible que Dieu m'a demandé de faire. Lui, il est pas forcément au courant. Il sait même pas qui c'est. Il sait pas qui est Jésus. C'est encore plus fou. Nous, on lit ce texte, on dit oui, c'est Jésus qui lui parlait. Lui, il a. Si vous avez quelqu'un de lambda qui vient et qui vous dit lève-toi et marche, c'est assez incroyable. Alors Jésus, je pense, l'a aidé. Il y a Dieu qui aide à lui donner la foi à répondre à cette parole. Mais c'est incroyable. Jésus, par sa simple parole, il lui dit lève-toi et marche, et il se lève et il part. Et ça, c'est un vrai miracle. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'il en était avec la piscine, on n'en est pas sûr, mais là, il y a vraiment un miracle de la part de Jésus, et cet homme est guéri. Et ça doit être un encouragement pour nous de pas. On peut perdre notre vie à attendre à côté d'une piscine, à regarder l'eau. À espérer avoir plus de ceci, plus de cela, à espérer dans le monde, que quelque chose dans le monde réponde à notre besoin. Et Satan, lui, se plaît à gâcher et à ruiner nos vies parce que nous attendons, parce que nous regardons à quelque chose qui ne va pas nous satisfaire. Et donc, pour moi et pour nous, tournons nos yeux sur Jésus. N'attendons pas à côté de la piscine. Allons voir Jésus. Cette situation, on se dit, il y en a combien de gens sont guéris ce jour-là? Il n'est pas le seul à attendre et espérer être guéri. Il y en a plein. Les autres, ils font quoi? Ils regardent la piscine. Ils surveillent l'eau. C'est le vent ou pas? J'ai l'impression qu'il y a des bulles. Tout le reste, c'est... Est-ce que c'est comme nous? Est-ce qu'on est là à regarder les comptes en banque, à regarder tout? Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'aller regarder Jésus? Est-ce qu'on lit notre Bible? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on a une relation avec lui? Ou est-ce qu'on est là obnubilé par le... Verset 10, c'était un jour de sabbat. Tadam! Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Il y a un hic. C'est pas le jour pour porter son lit. Alors c'est pas votre lit king size. C'était sans doute un petit tapis de sol, quoi. C'est un truc comme on pourrait prendre quand on va faire du camping. Les pinailleurs arrivent. La Pinaille Express. Ils cherchent la petite bête. Ils sont pas contents parce qu'ils portent son lit. Et lui, il dit, mais ça fait 38 ans que j'étais infirme, j'ai été guéri, et votre problème, c'est que je porte mon lit. Ok. Certains commentateurs disaient sans doute que cet homme, pour être à côté de la piscine, il avait sans doute fallu que plusieurs personnes, sans doute 3-4 gars, le portent jusqu'à la piscine pour le poser. Et le soir, il aurait fallu sans doute que des gars le prennent et le ramènent à la maison. Peut-être que dans son esprit, il se dit presque « Oui, je sais qu'il ne faut pas travailler, mais là, j'économise du travail. Il y a juste moi avec mon lit, alors que là, il y avait 4 gars. » Peut-être que c'est... Alors, le sabbat, c'était une règle dans la loi de Moïse, il ne fallait pas travailler, un jour sur 7. En tant que chrétien dans l'Église, normalement, on est conscient de ça. On est conscient de ça dans notre culture judéo-chrétienne, qui a bénéficié de l'influence de la foi chrétienne pour avoir ce genre de rythme de vie et de travail. Mais dans le monde antique, ce n'était pas quelque chose d'évident. C'était même quelque chose d'absolument révolutionnaire. Les commentateurs que je lisais disaient que les historiens de l'époque disaient que les trois choses qui choquaient le plus les gens qui visitaient Israël des autres peuples et des autres pays du monde antique, c'était le fait qu'il y avait une mer morte sans poissons, c'était quelque chose d'assez incroyable, le fait qu'ils avaient un temple dans lequel il n'y avait pas d'idole. Ça, ils ne comprenaient pas non plus. Ils disaient, mais pourquoi il y a un temple s'il n'y a pas de choses à... Et l'autre chose qui les choquait vraiment, c'était le sabbat, un jour sans travail. Et donc, parfois, on se dit, bon, ok, donc c'est quelque chose dans la loi de Moïse, etc. Mais en fait, c'était quelque chose qui vient même d'avant, qui prend son origine dans la Genèse, dès le début de la création, que Dieu institue ce rythme comme un cadeau aux hommes. Le Créateur sait comment nous marchons le mieux et sait que c'est une bonne chose pour nous de temps en temps d'avoir du repos. Ça vient même avant la loi. Et parfois, quand on lit les textes, on pourrait mal comprendre. Jésus, très souvent, on voit ces situations où il fait quelque chose le jour du sabbat. On dirait qu'il le fait avec un malin plaisir et que derrière, ça lui permet d'interagir avec les scribes et les pharisiens et d'avoir ces confrontations. Mais Jésus n'a jamais violé la loi de Dieu concernant le sabbat. Ce qu'il a enfreint, c'est les règles que des hommes ont établi en interprétation de la loi de Dieu. Les Juifs, on le sait, ils avaient rajouté plein de règles. Parce que ça, quand on a plein de pinailleurs professionnels, on sait, on est obligé de trouver plein de petites règles. Il ne faut pas travailler le dimanche. Est-ce que si je soulève mon manteau, c'est du travail ? Ça pèse pas trop lourd. Est-ce que si je mets une prothèse, c'est porter quelque chose? Est-ce que si je marche 1 kilomètre, c'est du travail? On va dire 1 kilomètre, ça va. 2, peut-être que ça commence à être du travail. On va. Et donc, ils avaient établi plein de règles comme ça. Il fallait faire ci, faire ça, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à ces situations un peu ridicules où cet homme qui était malade pendant 38 ans, qui ne pouvait même pas bouger, se lève et part, et il a son petit lit sous le bras, et on lui dit « Non, non, c'est interdit. » C'est malheureux, mais c'est comme ça. On en rigole, mais après, sans doute faire attention. Les traditions des hommes, les choses comme ça, on va regarder après, mais... On est toujours en danger de faire la même chose nous-mêmes, d'établir des règles. Le pasteur, est-ce qu'il faut qu'il porte une chemise ou une chemise avec une cravate? Il a juste un t-shirt. Pas pour condamner les gens qui pensent que c'est bien d'avoir une chemise et une cravate, mais pour nous mettre en garde que nos habitudes et nos traditions, les choses auxquelles on s'habitue, parce que c'est ce que tous les hommes font, On doit comprendre que ce sont des choses avec lesquelles on doit être flexible et où on ne veut jamais être en opposition à la loi de Dieu. Si la loi de Dieu est clairement contre une de nos traditions ou clairement pas aussi catégorique qu'une de nos traditions ou nos habitudes, Alors gare à nous et prions pour que nous restions flexibles et sensibles à toujours respecter la loi de Dieu et pas des petites règles et des traditions qu'on a établies après. Donc Jésus, lui, n'a jamais violé la loi de Dieu concernant le sabbat, mais il voulait toujours titiller les scribes et les pharisiens. Ils sont en train de parler avec cet homme et ils disent « Mais pourquoi tu portes ton lit? Tu sais pas, tu débarques, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « L'homme qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Alors j'ai pris mon brancard et je marche. Je me posais la question, je me demande où il allait. Vous, 38 ans que vous ne pouvez pas marcher, vous allez où quand tout d'un coup... Il m'a dit « Marche, je pars, on verra où je m'arrête, Forrest Gump. » Je suis allé jusqu'à la mer et puis je suis revenu. Il m'a dit de marcher. Je sais pas, je suis content, je peux marcher, j'y vais. Tac. C'est intéressant parce que ça énerve évidemment les chefs religieux. Encore une fois, dans les textes, quand il est dit les juifs comme ça, dans Jean, c'est l'idée que c'est les chefs religieux, les chefs de la communauté. C'est pas toutes les personnes. Et donc, ils essaient de trouver Jésus, ils cherchent à voir où il est, qui est cette personne. Jésus file, il guérissait pas pour être célèbre ou connu, il avait ses raisons autres. Et donc, il a disparu, et donc l'homme ne sait pas. Et on voit verset 14, « Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus retrouve l'homme un peu après et il a des mots qui sont un peu lourds de sens. On sent une certaine gravité dans ce qu'il dit. Quand il lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quand on lit ça, on peut se dire peut-être qu'il y a un sous-entendu que son infirmité résultait peut-être d'un péché. Peut-être que c'était un voleur et en voulant s'échapper, il est tombé de la fenêtre et il était paralysé depuis, j'en sais rien. C'est qu'une hypothèse évidemment, c'est pas dit dans le texte, mais on sent, dans la logique, on peut très bien comprendre « Tu as été malade parce que tu avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ne fais plus de mauvaises choses, ok ? Parce que sinon, peut-être que ce sera encore pire. » Alors, on dit « Qu'est-ce qui peut être pire que d'être paralysé pendant 38 ans ?» C'est déjà pas mal. Et alors, il y a des choses sans doute peut-être pires sur cette terre. On ne va pas faire un concours de qui a l'idée de ce qui est la pire chose. Mais... Dans la Bible, simplement, il y a l'idée que la pire chose, c'est d'être en enfer, c'est d'être loin de Dieu, c'est de rejeter le salut que Dieu nous offre en Jésus et d'en subir les conséquences éternelles. Si vous mettez la place de quelqu'un qui est en éternité en enfer, je pense qu'il signerait tout de suite pour 38 ans d'infirmité sur cette terre. Encore une fois, nous sommes souvent trop focalisés sur ce monde-ci, sans voir les réalités spirituelles, sans voir comprendre les conséquences que la Bible nous présente. La Bible nous parle de la sagesse comme étant le fait de nous rendre compte de ces réalités, de ces choses, et de savoir que nos décisions et nos choix et ce dans quoi nous investissons, les conséquences éternelles et les conséquences qui viennent après, sont les choses dont nous devons vraiment nous soucier. Alors c'est pas pour minimiser nos souffrances sur cette terre que nous pouvons avoir, que nous pouvons endurer, mais c'est simplement pour dire qu'il y a peut-être une échelle de valeur et la Bible n'est pas insensible à nos souffrances et à nos douleurs ici sur terre et Dieu n'est pas insensible à ça, mais il y a une réalité spirituelle, une vie éternelle dont nous devons vraiment nous soucier, et comme je vous disais, quelque chose qui peut vraiment nous satisfaire, qui est Jésus, alors que les autres choses ne vont pas permettre d'être satisfait pleinement. Donc il dit ça à cet homme, et l'homme s'en va pour l'annoncer aux Juifs. Et là, on se dit, collabo, fouine, il tac, et Jésus vient et tout de suite, il va le balancer, quoi. Il se retourne et hop, c'est lui. Il avait sans doute peur des chefs religieux. Dans la loi, dans les textes anciens, on ne sait pas si c'était vraiment mis en œuvre, mais l'idée c'était que le fait de sciemment ne pas respecter le sabbat, c'était quelque chose pour lequel il recommandait la mort en conséquence. Si c'était par accident c'était pas sciemment, alors là il y avait des circonstances atténuantes, mais sinon c'était on le lapidait, quoi. Donc peut-être que ce gars-là, il se dit quand même, faut quand même, je portais mon brancard. Peut-être que si je retrouve pas le gars, ils vont se dire, tiens, lui, si. Et donc il a peur des chefs religieux. Et c'est malheureux. Ça va un petit peu avec les traditions dont nous avons parlé précédemment. Mais combien de fois dans l'histoire humaine, les hommes se sont servis de la religion pour opprimer les hommes. Et c'est ça qu'on voit avec cet homme. Il vient d'être guéri, il est content, et on vient avec des règles pour lui faire peur, pour le contrôler, pour l'opprimer. Et les Juifs, là, c'est incroyable, encore une fois. C'est ce que je disais au début. Jésus vient, Dieu fait homme, créateur de l'univers, qui peut faire des miracles incroyables, qui peut dire à quelque chose juste par la parole, et quelque chose se passe, et les chefs juifs cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. C'est tellement petit. Mais derrière cette réalité ou cette réaction, il y a sans doute aussi une réalité spirituelle, et il y a aussi ils sentent une attaque contre leur autorité qu'ils utilisaient pour leur bénéfice, pour leur propre plaisir. Et on voit que c'est quelque chose d'incroyablement fort dans leur cœur, qu'ils sont comme enchaînés avec cette haine et cette colère envers Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. C'est fou. Et par rapport à ça, et cette idée de tradition dont je parlais précédemment, le fait que nous pouvons tomber dans des situations où nous mettons des traditions en avant, nous pouvons nous mettre en porte-à-faux ou en opposition à Dieu à cause de certaines de nos traditions ou de nos habitudes. Il faut qu'on prie, il faut qu'on prie pour nos responsables, de rester fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Comme je vous disais, il y a des choses tellement simples sur lesquelles on peut vite devenir catégorique et qui peuvent causer tellement de tort, qui peuvent être utilisées pour, d'une certaine manière, opprimer les gens qui veulent voir Jésus simplement. Verset 17. Cependant, Jésus leur répondit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc Jésus en remet une couche. Ils viennent le voir, ils lui disaient : Tu sais pas comment ça se passe le sabbat ? T'as pas le droit de faire ça ? Et alors la réponse ici, il dit : Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Quand je lis ça, moi j'ai toujours eu un peu de mal à saisir je dis ok, c'est un peu. L'explication derrière, au verset 18, me fait comprendre, mais je ne saisissais pas bien. Et j'ai trouvé une explication dans certains commentaires qui, je pense, pour moi, m'aide vraiment à comprendre. C'est comme si Jésus leur dit, Dieu, il travaille tout le temps. Il est toujours en train de travailler. Le récit qu'on a dans la Genèse, c'est donné comme un exemple, mais Dieu, le dimanche, Dieu il travaille, il est pas. Donc il leur pose un peu cette question théologique, il leur dit : Dieu il travaille tout le temps, non ? Donc moi aussi. C'est assez incroyable comme réponse. Je veux dire, si un simple homme qui n'était pas Jésus disait ça, ce serait quelque chose quand même. Et Jésus, lui, travaille tout le temps, moi aussi. Écoutez les gars, moi je suis au même Dieu, moi, voilà, on travaille. On ne se laisse pas embêter. Et après, on voit au verset 18, il appelait aussi Dieu son propre Père. Il revendique en plus une relation privilégiée avec Dieu le Père. Et on va voir dans la suite que Jésus ne va pas à l'encontre de ces accusations. Parfois, on peut lire ces textes et dire « Oui, mais ce n'est pas vraiment Dieu. » Essayer de... Les gens qui veulent refuser la divinité vraiment pleine de Jésus et le fait que lui l'a revendiqué, parfois vont essayer de détourner l'attention. Mais si c'était le cas, Jésus, il aurait dit « Oui, non, vous avez raison, vous avez mal compris. » C'est les débats théologiques, des fois on utilise des mots un peu compliqués et il faut qu'on définisse bien les mots avant de pouvoir... Non, non, il ne dit pas ça. Il surenchérit, il dit « Oui, vous avez bien compris. » C'est exactement ça que je suis en train de dire. C'est bien ça, vous avez bien compris. Il s'oppose pas du tout. Ils veulent le faire mourir parce qu'il a en gros dit « Je suis Dieu. » Et il dit « Oui. » C'est fou, c'est fou. Jésus est Dieu. Et on peut dire ça et s'en laisser à « Bon, Jésus est Dieu, il s'occupe des... » Nous avons chanté certains chants ce matin, et l'idée est ce que je veux m'exhorter et que je nous exhorte à prendre en considération, c'est que Jésus veut être Dieu dans nos vies, sur nos vies. Il veut être Dieu sur nos espoirs, il veut être Dieu sur nos relations, il veut être Dieu sur nos finances, sur nos espoirs, sur toute notre vie. Il veut le contrôle. Il n'est pas là pour être en supplément. C'est tellement souvent le cas pour moi, malheureusement. Mais il veut être Dieu dans ma vie. Et nous avons besoin et nous devons regarder à lui parce que c'est lui. On peut se dire ça et se dire « Oui, non, mais j'ai besoin de ci, de ça, etc. » Non. La chose merveilleuse, c'est qu'il veut être Dieu sur notre vie et que si on lui laisse l'opportunité de le faire, alors nous avons la réponse et la satisfaction à tous nos problèmes et nos souhaits. Le Créateur de l'univers, le Dieu qui a tout créé, qui sait comment nous fonctionnons le mieux, qui sait que nous avons besoin de repos, que nous avons besoin d'aide, qui nous comprend, qui a été homme comme nous, qui comprend tout de nous, qui est tellement puissant et en même temps, il veut venir s'impliquer dans la vie de chacun. Il veut venir dans notre vie dire hey, « tu veux être sauvé, tu as besoin de quelque chose ?» Nous avons juste à l'accepter et à marcher dans cette réalité et de l'accepter comme Dieu dans notre vie. Prions. Jésus, merci pour ce texte, merci pour qui tu es. Tu es Dieu. Et je te demande de continuer à changer ma vie, à me rendre plus comme toi, et je veux grandir, Seigneur, en te laissant être plus Dieu dans les différents aspects de ma vie, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où ce n'est pas le cas, pour tous les domaines et tous les aspects de ma vie où je suis obnubilé par les petites vaguelettes sur une piscine. Aide-nous à tourner nos yeux vers toi, à te chercher, à venir à toi tous les jours, Seigneur, pour que tu sois notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble. Merci pour ce dimanche matin. Bénis notre temps ensemble, notre communion fraternelle, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.